On parle de disparition forcée en tant que crime de droit international, consistant pour les forces de sécurité égyptiennes à faire disparaître des personnes en les soustrayant à la protection de la loi, sans qu'il y ait reconnaissance de leur disparition auprès des familles, des jeunes, des étudiants, des manifestants pacifiques, des juristes, ce sont des ONG. C'est la société civile, finalement, qui est prise en otage et poursuivie par les disparitions forcées. Hein. Le but du jeu, entre guillemets, pour les Égyptiens, étant de faire passer le mot, demain, vous ne savez pas si ça sera à votre tour, donc tenez-vous à carreau.
Quels sont les prétextes évoqués par les forces de l'ordre égyptiennes pour justifier ces arrestations ?
Alors, le prétexte majeur qui est mis en avant par les autorités égyptiennes, c'est la lutte contre le terrorisme. Et dans ce cadre-là, en fait, on constate que ce sont des gens qui sont présumés soutenir l'ancien président Morsi, des gens qu'on soupçonne d'être des frères musulmans, alors que c'est une organisation interdite en Égypte. Sur tous les cas de disparition forcée qui sont recensés, aucun de ces faits ne sont avérés. Il s'agit juste d'instiller un sentiment de terreur dans la population pour faire taire toute opposition aux régimes, de quelque nature qu'elle soit.
Et depuis combien de temps durent ces arrestations ?
Le rapport, nous, s'inscrit dans une période de 18 mois, donc depuis janvier 2015. Mais depuis la venue de M. Gaffard, le ministre de l'Intérieur, ancien du service de sûreté et d'enseignement qui a été dissolu pour devenir la NSA, on assiste à une recrudescence de ces disparitions forcées, à tel point qu'aujourd'hui on parle de 3 à 4 disparitions forcées par jour. C'est absolument considérable.
Quelle est la réaction du gouvernement égyptien ?
Il rejette en bloc nos accusations, accuse Amnesty de faire la part belle au terrorisme. Le problème, c'est que aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à faire part de ces préoccupations. Il y a Amnesty International, donc qui sort ce rapport aujourd'hui. Vous avez le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées, qui a fait état de 79 cas de disparitions forcées. Vous avez des ONG en interne, donc au niveau local en Égypte, qui font part également de ces disparitions forcées. Et les témoignages que nous avons recueillis dans le cadre de notre rapport sont accablants. De jeunes hommes, des mineurs, des adultes, tous la plupart des hommes qui ont fait l'objet d'une disparition forcée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui ont été torturés dans des conditions abominables. Un des cas les plus abominables, c'est ce garçon de 14 ans qui a été arrêté et qui a été violé avec un bâton qu'on lui a introduit dans l'anus. Quoi. Enfin, et tout ça justifie la guerre contre le terrorisme. Ce sont des prétextes absolument fallacieux, de la même façon qu'un certain nombre d'États aujourd'hui qui coopèrent avec l'Égypte, entretiennent des relations bilatérales amicales, font le jeu de la répression. L'Union européenne et ses États membres qui continuent à exporter des équipements militaires de sécurité à l'Égypte sont complices de cette répression. Ce niveau de répression n'a pas été vu depuis longtemps.
Mais effectivement, il y a de nombreuses puissances étrangères qui fournissent des armes, des équipements de police à l'Égypte, considérés comme un partenaire contre le terrorisme. Mais alors, quelle doit être la réaction de cette communauté internationale face à ces faits ?
La réaction de la communauté aujourd'hui doit être de dénoncer. Pour le moment, on ne les entend pas. Et d'ailleurs, si on prend le seul cas de la France, depuis 2011, les ventes d'armes et d'équipements de sécurité de la France à l'Égypte n'ont pas arrêté de progresser. On est passé de 40 millions et quelques à aujourd'hui plusieurs milliards d'euros de transfert. Donc, il y a quelque chose qui relève du cynisme le plus absolu. En plus, la France explique que ces transferts ne sont faits qu'à destination des forces armées. Force est de constater que nous avons récolté des éléments attestant que des véhicules blindés militaires se trouvent aux mains des forces de sécurité internes, aux mains de la police. Donc quand on n'est pas capable de contrôler à qui on vend exactement, on n'exporte pas et on ne fait pas le jeu de la répression. On a du mal à imaginer une France responsable agissant de façon à ce que ces pratiques cessent, mais c'est ce que nous demandons. Aujourd'hui, nous demandons un signe fort, un signe vocal, indiquant que la France ne peut pas soutenir et cautionner ce type de pratique.
Si elle met par exemple en place d'éventuelles sanctions, la France ne risque-t-elle pas de perdre un partenaire pour la lutte contre le terrorisme ?
Mais de quel terrorisme parlons-nous ? Est-ce que ce jeune homme de 14 ans violé avec un bout de bois à plusieurs reprises justifie à lui seul la lutte contre le terrorisme et l'instabilité régionale ? Je ne crois pas. Aujourd'hui, on veut nous faire croire, sous couvert d'action contre le terrorisme, que tout ce qui se passe en Égypte est normal. Ce qui se passe en Égypte est absolument anormal et viole un nombre de conventions et de droits internationaux incroyables. Lutter contre le terrorisme est quelque chose de légitime, mais la fin ne justifie pas les moyens. Et aujourd'hui, ce sont encore une fois les populations égyptiennes qui payent le prix fort de cette soi-disant lutte contre le terrorisme, qui en fait ne sert qu'à asseoir l'autorité du président Sissi.
Comment réagissent les autorités judiciaires égyptiennes ?
C'est une catastrophe. Les autorités judiciaires sont complices. Les autorités judiciaires qui doivent être les garants des droits de la population civile et assurer la protection de celle-ci face aux abus éventuels des organes de sécurité, eh bien, elles ne jouent pas du tout ce rôle. Au contraire, elles sont complices. Il n'est pas rare que les forces de sécurité falsifient les dates d'arrestation pour laisser entendre qu'il ne s'agit pas d'une disparition forcée. Ces dates ne sont pas contestées. Lorsque les personnes qui ont fait l'objet d'une disparition forcée et qui passent ensuite en procès veulent se rétracter des aveux formulés dans le cadre de la torture, le procureur explique aux prévenus, si jamais vous vous rétractez, sachez qu'on vous renvoie pour torture et subir à nouveau des décharges électriques. Dans quel pays une telle justice est acceptable et entendable? C'est possible. La justice aujourd'hui est la complice des exactions commises par les forces de sécurité et elle continuera à l'être tant qu'elle ne sera pas indépendante. Aujourd'hui, la justice égyptienne n'est pas indépendante du pouvoir exécutif. À aucun moment, les Égyptiens ne peuvent dire « nous sommes en confiance, nous sommes protégés par la justice égyptienne ». Ce n'est pas le cas. Cette justice soutient les exactions commises par les forces de sécurité.
Est-ce qu'on peut parler d'une véritable culture de l'impunité de la part de la police égyptienne ?
Bien sûr, bien sûr. C'est même ce qui caractérise l'Égypte. Hein. Parler d'Égypte et d'impunité des forces de police, c'est de la palissade. Depuis 2011, le monde semble redécouvrir que la police égyptienne pratique la violation grave des droits de l'homme. Mais depuis très longtemps, Amnesty documente les pratiques exécrables de la police et des forces de sécurité égyptiennes, notamment en termes de recours excessif à la force. On les a vus, ces forces de sécurité, intervenir pour tuer, blesser lors du début de la révolution en 2011. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Et c'est extrêmement rare qu'un policier, aujourd'hui, soit mis face à ses responsabilités, ainsi que sa hiérarchie, et face à l'objet d'un procès pour que ses responsabilités soient établies. Oui, aujourd'hui, il y a impunité. Cette impunité facilite le recours aux violences, encore aujourd'hui, de ces forces de sécurité. Tant que des mesures sévères ne sont pas prises pour établir une justice indépendante, impartiale, et que les forces de police n'auront pas à rendre compte devant cette justice, rien ne changera.
Est-ce que la liberté d'expression existe encore aujourd'hui,
non,
ou a-t-elle déjà existé ?
Il y a eu des mouvements d'expression possibles. Les médias ont pu s'exprimer, mais régulièrement, leur liberté d'expression est remise en cause. Et aujourd'hui, parler de liberté d'expression en Égypte, non, ce n'est pas possible. Il n'y a plus de liberté d'expression. Il y a urgence que la communauté internationale donne-le-là, demande des garanties que tout ça cesse et ne se reproduise plus. Et qu'il y ait justice pour les victimes.